et bienvenue sur Caribbean Lifestyle, un podcast qui vise à valoriser le mode de vie caribéen tout en prenant en compte les spécificités de cette région. Je suis votre hôte, Anaïs.
Bienvenue dans un nouvel épisode du Caribbean Lifestyle Podcast. Aujourd'hui, dans l'épisode du jour, nous allons discuter d'entrepreneuriat dans la Caraïbe, de réseautage ou networking. Bonjour Lorina, comment vas-tu?
Bonjour Anaïs, je vais bien et toi?
Ça va très bien, merci. Est-ce que tu peux te présenter aux auditeurs?
Alors, je suis Lorina Algin-Gomes, j'ai 26 ans, bientôt 27. Je suis la fondatrice de Caribbean Hustlers, qui est un réseau qui réunit les entrepreneurs et les chefs d'entreprise de la Caraïbe anglophone, francophone et créole, à travers notamment des événements de networking physique et virtuel, en anglais et en français.
Qu'est-ce qui t'a poussé justement à créer cette entreprise?
Alors, c'est une longue histoire. Je vais revenir à 2016-2017. J'étais en master marketing événementiel et relations publiques en alternance. Et je cherchais à une entreprise pour effectuer mon alternance. Et je suis tombée sur BNI, Business Network International, qui est un réseau de recommandations d'affaires internationales. J'ai été acceptée au sein de l'entreprise en tant qu'assistante événementielle et administrative. Et c'est là où j'ai découvert le merveilleux monde du réseautage. Et j'organisais des petits déjeuners, des déjeuners, du team building au sein de l'entreprise pour les membres, mais également pour le personnel, pour les adhérents. C'est suite à cela que j'ai commencé à m'intéresser au réseautage. J'ai fait un mémoire sur la place de l'événementiel dans le développement de son réseau professionnel, ne sachant pas que quelques années plus tard, j'habitais en Guadeloupe. Ce qui me manquait, c'était le côté anglophone, on va dire, puisque je participais à des after-work. Je parlais beaucoup de la Caraïbe, et comme je suis Saint-Martinoise, pour moi, la Caraïbe, c'est pas que les îles francophones, c'est-à-dire la Martinique, Guadeloupe et Guyane, dont on faisait souvent référence. C'est vraiment l'arc entier de la Caraïbe, tout simplement. Et du coup, j'ai remarqué qu'il n'y avait pas vraiment d'événements, par exemple, en anglais ou entièrement en créole, et il n'y avait qu'en français. Donc, c'est là où je me suis dit, allez, il est temps de lancer Caribbean Hustlers. Et c'est comme ça que Caribbean Hustlers est né, à travers cette envie vraiment de permettre à tout un chacun de bénéficier d'un réseau dans la Caraïbe. Sachant que moi, personnellement, comme je suis Saint-Martinoise, j'habitais à Saint-Martin, j'habitais en Guadeloupe, maintenant j'habite en Martinique. Je faisais profiter de mon entourage, de mon réseau professionnel. Et je me suis dit qu'il vaut mieux créer une structure pour que tout un chacun puisse, au final, se rencontrer et se connecter. Et échanger, faire du partage de compétences. Donc voilà, c'est de cette frustration qu'est née Caribbean Hustlers, en gros.
C'est un beau parcours. Ah oui, je vois vraiment l'évolution depuis les études jusqu'à maintenant.
Ah oui, je suis passée. Alors, après le master que j'ai eu en 2017, juste après, il y a eu le passage de l'ouragan Irma à Saint-Martin. Donc, je suis rentrée pour aider ma famille, mais également donner un coup de main dans le premier degré. Donc, occasionnellement, j'étais remplaçante en primaire et maternelle puisqu'il n'y avait plus beaucoup d'effectifs dans l'éducation nationale à Saint-Martin, tout ce qui concernait Saint-Martin. Ensuite, j'ai bifurqué vers la télévision en tant que journaliste et créatrice de contenu pour la première télévision de Saint-Martin, où je faisais des reportages, des micro-trottoirs. C'était vraiment intéressant. J'ai pu rencontrer, découvrir mon île d'une manière totalement différente. Ensuite, j'ai travaillé pour des marques caribéennes en Guadeloupe. J'ai travaillé en tant que responsable de communication digitale. J'ai été par la suite formatrice en marketing digital. Et aujourd'hui, je me focus intégralement dans le développement de Caribbean Hustlers pour l'année 2023 parce que j'ai beaucoup d'ambition dans ce sens-là et je me consacre intégralement à ça en fait.
Ok, je vois que tu as exercé quand même différents corps de métier. Tout ça, c'était entre 2017 et à peu près 2022.
Ouais, exactement. C'était ça, de 2017 à 2022, j'étais community manager, responsable en communication digitale, créatrice de contenu, formatrice en marketing digital pour des étudiants en troisième année et des personnes en reconversion professionnelle. Donc voilà, après les études, c'était plus le digital, le digital, le digital. Et comme il y a eu... Comme il y a eu le Covid derrière, donc les gens n'étaient pas forcément à fond dans l'événementiel, dans le lancement d'Afterwork, etc. C'est vraiment quand il y a eu la levée des restrictions en Guadeloupe que je me suis dit, allez, on va profiter, on va relancer tout ça et on va faire des événements de networking plus souvent et sortir, puisque l'événementiel, c'était ce que je voulais faire de base. Mais il n'y avait pas vraiment d'offres, on va dire, aux Antilles. Dans l'événementiel, ou sinon, si c'était de l'événementiel, c'était plutôt de la communication digitale qui venait avec. Donc, j'ai dû m'adapter, entre guillemets.
J'ai une question à propos des difficultés. Est-ce que, bon, je suppose que tu as rencontré des difficultés quand tu as créé Caribbean Hustles, mais mis à part le COVID et ses conséquences, quelles ont été les autres difficultés que tu as pu rencontrer justement dans la création de ton entreprise pour faire démarrer l'activité, pour trouver des personnes qui sont intéressées par ton concept, par exemple?
Alors, au départ, jusqu'à aujourd'hui, Caribbean Hustler s'est lancé grâce à moi. Donc, quand tu es entrepreneur au début, c'est gets lonely. Tu es toute seule dans ton coin. En fait, tu es community manager. En même temps, tu es responsable commercial. Tu fais de la relation client. Tu fais tes événements. Bref, en gros, la plus grosse difficulté pour moi, c'était vraiment de faire en sorte que tout soit géré, je le faisais moi-même. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, au départ, par exemple, Caribbean Hustler, c'était plutôt tourné vers le digital, le coaching et tout. Et après, j'ai eu un burn-out et j'ai dû me poser pour vraiment me demander ce que je voulais, dans quelle direction je veux aller, parce que ça partait vraiment dans tous les sens. Et c'est après que j'ai réaliser l'importance de se faire accompagner et de demander de l'aide. Et c'est comme ça que j'ai fait appel à deux coachs business qui m'ont aidé vraiment à structurer mon business, mais également mon mindset et à vraiment ne pas hésiter à demander de l'aide, à déléguer et tout, parce que je suis quelqu'un de très, très, très têtu et je veux tout faire toute seule et je veux que tout soit parfait. Mais au bout d'un moment, il faut vraiment demander de l'aide et il faut créer une équipe pour avancer. Ou sinon, je ne peux pas porter toute la pression de Caribbean Hustler tout seul. Donc moi, j'aurais dit que c'est vraiment cette difficulté à chercher de l'aide. En termes de trouver des clients, on va dire que ça a été très organique. Lorsque, en juin dernier, j'ai décidé de vraiment structurer la communication en termes de networking, 100% networking, 100% on va parler à des entrepreneurs qui cherchent à développer leur réseau professionnel dans la Caraïbe, on va parler anglais, français, créole, etc. C'est vraiment de manière très naturelle que les gens se sont intéressés et c'est naturellement que j'ai commencé également à attirer des structures, des programmes, des médias, des personnes qui eux également justement ont cette ouverture caribéenne et qui ont assisté aux événements, qui ont demandé à être partenaires, par exemple comme en Guadeloupe. Donc voilà, c'était vraiment organique, on va dire. Donc j'ai vraiment senti cette émulsion autour du fait que maintenant on cherche à dépasser son territoire et à se tourner vers d'autres acteurs chez nos voisins et dans la Caraïbe en général.
Ben, c'est exactement dans la même dynamique que j'ai voulu créer ce podcast parce que, juste pour faire le lien par rapport à ce que tu disais, je me suis rendu compte qu'en fait, on connaît sur le papier, je vais dire ça comme ça, les autres îles qui nous entourent, les îles anglophones notamment et hispanophones, mais dans les faits, on ne les connaît pas vraiment. Maintenant qu'on a les réseaux sociaux, on sait en cherchant un peu ce qui se passe à côté. Mais la réalité sur le terrain, elle est vraiment différente. Elle est tout autre. Et des initiatives comme ce que tu as créé, je trouve ça vraiment super pour pouvoir faire des ponts entre les îles francophones, françaises et les îles anglophones qui sont un peu plus indépendantes. Du fait qu'on n'ait pas le même, comment je dirais, la même gestion de notre territoire ou de notre politique. C'est intéressant en fait de se confronter et de voir comment le voisin fait, ce que nous on peut faire.
C'est ça, exactement, parce qu'on n'a pas, des fois, on fait face à des problèmes. Par exemple, je prends l'exemple des sargasses. On fait face à des sargasses qui sont très encombrants et récurrents dans l'année en Martinique, en Guadeloupe, etc. Mais par exemple, quand on voit comment nos voisins gèrent les sargasses, c'est complètement différent. Par exemple, je sais que à Saint-Barthélemy, même si ça reste français, il y a des personnes qui ont réussi à transformer les sargasses en papier. Ou sinon, je me rappelle plus l'île dans la Caraïbe, mais qui transforme les sargasses en produits de beauté. Donc vraiment, quand des fois on se confronte à certaines situations, c'est toujours intéressant de voir ce que font nos voisins et s'en inspirer tout simplement.
Mon autre question qui me vient à cet instant, c'est comment tes événements ont été accueillis? Je sais que tu as pu faire des événements networking en Guadeloupe, Martinique et Saint-Martin. Comment cela a été accueilli? Et si tu as pu avoir des invités anglophones venant de la
Alors,
Caraïbe anglophone?
en Martinique, en Guadeloupe et à Saint-Martin, c'était plus du networking entre participants. Là, la deuxième vague qu'on va faire bientôt, là, c'est avec des intervenants, c'est-à-dire des intervenants. Les prochains after-work sont sur comment exporter dans la Caraïbe. Donc, on va faire en sorte d'avoir des intervenants francophones et anglophones. Par exemple, en Guadeloupe, à la fin du mois de janvier, on aura une anglophone qui va nous parler de l'export en tout ce qui concerne la cosmétique. Par exemple, si on veut créer sa marque de cosmétique 100% naturelle, quelles sont les restrictions à respecter en fonction des îles dans lesquelles vous allez exporter? Donc, ce sont on va dire, des intervenants que je vais mettre en avant. Mais je vais avoir également des intervenants en créole et en anglais pour vraiment faire un melting pot au niveau des intervenants, mais également au niveau du public. Donc, on n'a pas eu d'intervenants pour l'instant, mais ça arrive au fur et à mesure. Mais en termes de participants, on a eu des francophones, des anglophones, des créoles. Voilà, et en fonction, et j'ai remarqué qu'en fonction des îles, ça diffère. Par exemple, en Martinique et en Guadeloupe, on a l'habitude d'avoir des after-work, de faire du networking, de sortir après le boulot et voilà, d'aller prendre un verre. Saint-Martin, c'est complètement différent. Saint-Martin est très petit, il y a une certaine proximité entre la communauté, ce qui fait que lorsqu'on recommande. On fait de la recommandation, c'est entre amis ou en famille, parce que c'est vraiment une très petite île. En plus, qu'elle est divisée en deux, donc la partie française est très petite. Donc, on n'a pas vraiment l'habitude de faire des after-work, voilà, de sortir après le boulot pour aller boire un verre. C'est vraiment pas dans les habitudes des Saint-Martinois. Par contre, ce qui m'a vraiment fait chaud au cœur, c'est de voir que la première édition, on avait une dizaine de personnes. Donc, je me suis dit, voilà, on commence quelque part et au fur et à mesure, on verra. Mais savoir que Caribbean Hustlers n'a pas été accueilli enfin, de différentes manières selon les îles, c'est très intéressant à avoir, en fait. parce que on a toutes nos us et coutumes, et clairement, par exemple, Saint-Martin, même si c'est français, ne va pas accueillir un after-work de la même manière que la Martinique et la Guadeloupe, en tout cas. Je sais qu'en Guadeloupe, les gens étaient très, très, très intéressés. On m'a limite harcelé pour faire un autre quelques jours ou semaines plus tard, mais je ne pouvais absolument pas. En Martinique aussi, on a eu très bon accueil à Saint-Martin, même si c'est un très petit comité. Les gens étaient vraiment intéressés parce que ça change du quotidien, tout simplement, et ça ne fait pas partie des normes. Donc voilà, notre accueil, en gros, ça a été ça.
Ok. Je pense qu'en Guadeloupe et en Martinique, c'est un peu ancré dans les habitudes. Parce que je me souviens qu'il y a quelques années avant le Covid, c'était très en vogue les after-work, business. Je me souviens aussi qu'il y avait un moment des after-work entièrement en anglais qui permettaient justement personnes qui venaient d'avoir des conversations en anglais, d'échanger en fait dans une autre langue.
C'est ça, mais c'est ce qu'on fait pendant les after-work. Par exemple, on a au début ce qu'on appelle les icebreakers, c'est-à-dire on fait des jeux en anglais, 100% en anglais. Que ça soit avec des drapeaux, que ça soit avec des questions, pour vraiment permettre aux gens ben, de rentrer dans le bain, de se préparer, de se présenter, un peu de réchauffer leur anglais, on va dire, et de se détendre et d'apprendre à se connaître intégralement en anglais. Et après, quand on rentre vraiment dans le vif du sujet, dans le côté vraiment networking, on va faire du speed networking, on va pitcher son idée, etc. C'est là où vraiment je dis, bon, vous allez vous exprimer dans la langue que vous voulez, soit en français, soit en créole. J'insiste sur le fait que si vous voulez présenter, pitcher votre idée en créole, il n'y a pas de souci. Donc voilà, en gros, c'est vraiment faire en sorte que tout un chacun puisse au moins une fois dans la soirée exercer son anglais et parler en créole et parler en français.
Je vais passer maintenant à des questions un peu plus spécifiques par rapport au podcast. C'est un podcast comme les auditeurs qui ont déjà écouté les épisodes précédents qui vise à mettre en avant le mode de vie caribéen. Donc, je voudrais savoir pour toi, qu'est-ce que le mode de vie caribéen, justement?
Ah, le mode de vie caribéen. Pour moi, le mode de vie caribéen, c'est... Je parle pour moi.
Oui, c'est différent pour tout le monde, ça c'est sûr.
C'est clairement si on a les moyens de voyager. Par exemple, je suis une grande voyageuse de la Caraïbe. J'ai visité 11 îles de la Caraïbe. Donc, le mode de vie, c'est vraiment être qu'on appelle aux Antilles Mako, tu vois, aller quelque part, être curieux, poser des questions. Le mode de vie caribéen, c'est clairement également en tant que professionnel, avoir la capacité d'aller quelque part et de travailler. Moi, je fais beaucoup dans les espaces de networking et tout, de travailler en sandales par exemple, ou sinon des bardeurs. On sait qu'il fait chaud dehors, donc on va se prendre très au sérieux et on va s'habiller que lorsqu'on a un rendez-vous très important. Donc voilà, le mode de vie caribéen, c'est aussi savoir que peut-être que demain je vais travailler à Fort-de-France, je vais rentrer plus tôt, je vais rentrer comme j'habite dans le sud, je vais rentrer, je vais mettre mon maillot et puis je vais aller à la plage juste pour me détendre et voir le coucher du soleil. C'est vraiment, c'est très spécifique. Ce sont des choses qu'on ne peut pas faire. Pour moi, c'est ce qu'on ne peut pas faire ailleurs. Je vais sortir au bourg parce que j'habite aux Antilles. Je vais descendre au bourg, je vais aller prendre un floup, je vais me poser avec mon livre au bord de la plage. Ou sinon, je vais décider d'aller dans le nord, faire une petite visite et vraiment ne pas, comment dire, hein, ne pas me limiter par rapport à mon île et voir jusqu'où je peux aller tout simplement. Enfin, sortir un peu de ma zone de confort. Donc pour moi, c'est ça le mode caribéen. Mais c'est avoir aussi des codes très précis. Par exemple, je sais que devant une personne que je ne connais pas, je ne vais pas le vouvoyer. Je ne vais pas le tutoyer, je veux le vouvoyer. Je veux faire en sorte de bien m'habiller parce que je sais qu'aux Antilles, le mode de vie, c'est vraiment quand tu as un rendez-vous très indispensable, tu t'habilles de certaines manières, tu fais attention à ton image. Donc voilà. Je sais que peut-être qu'en France métropolitaine, c'est pas la même chose. Moi, j'étais à BNI, ensuite j'étais dans une start-up. Ils sont pas très regardants sur les vêtements, mais je sais qu'aux Antilles, c'est le cas. Donc voilà, c'est vraiment faire en sorte, par exemple, que là, je vais charbonner jusqu'à mi-février parce que je sais qu'il y a le carnaval. Donc, je vais vouloir prendre ma pause pendant le carnaval. Donc, pour moi, c'est ça le mode de vie caribéen.
Ok, combiner un peu, profiter en fait des avantages que les îles nous offrent. Ouais, je vois tout à fait.
Exactement. Parce que si on profite pas, qui va profiter pour nous? C'est ça le
Ça,
truc.
c'est sûr, c'est sûr. Tu as attisé en plus ma curiosité lorsque tu as dit que tu as visité 11 îles de la
Ouais.
Caraïbe. Je suis fascinée. J'aimerais savoir quelles sont les îles que tu as visitées. Et quelle est l'île ou quel est le voyage qui t'a le plus marqué lors de tes visites?
Alors, j'ai visité Jamaïque, Saint-Thomas, qui fait partie des îles Vierges britanniques, je crois. Saint-Thomas et Saint-Croix.
Je
Ensuite,
crois que c'est américaine, Saint-Thomas,
c'est
Saint-Croix
américain.
et Saint-John.
Ouais. Voilà, c'est
Ouais,
ça.
je crois que c'est
Donc,
américain.
j'ai visité ben, Saint-Martin, la base, Saint-Barthélemy, Anguilla, Porto Rico, Guadeloupe, Martinique, Dominique, Aruba, Barbade, Sainte-Lucie. L'île qui m'a marqué le plus, que j'ai adoré, c'est Jamaïque. C'est la Jamaïque, la verdure de la Jamaïque. Il y a des paysages vraiment incroyables. Par exemple, il y a un endroit qui s'appelle The French Cove Man, je crois. Et c'est un endroit où la mer est reliée à la rivière et c'est juste incroyable. C'est vraiment magnifique. Donc, voilà, ouais, Jamaïque, les gens, parce que je restais chez l'habitant, les gens sont incroyables. Ils sont vraiment très accueillants par rapport à ce qu'on peut voir, par exemple, dans les médias. Il faut vraiment discuter avec eux. Ils ont aussi un respect pour la nature qui est très intéressant. Franchement, la Jamaïque, pour moi, ça se raconte pas, ça se vit. Et ça se vit parmi aussi les locaux, les acteurs locaux. Par exemple, là-bas, on a été dans un village où ils étaient en train de fêter la 40e commémoration des atrocités faites contre la communauté Rasta en Jamaïque. Et c'était un grand village avec des stands, un podium et des intervenants. Ils racontaient un peu les histoires. Il y avait des personnes qui étaient dans la communauté depuis plus de 60 ans qui racontaient comment la Jamaïque les avait traités dans les années 70 et dans les années 60 également. Donc, c'est toujours intéressant d'échanger avec les locaux et de voir comment eux ils vivent au sein de la société jamaïcaine. C'est vraiment différent. C'est complètement différent.
Là, en l'espace de 5 minutes, ouais, tu m'as fait voyager en Jamaïque. Je n'ai pas encore été, mais ça me donne envie d'y aller là.
Ben, c'est
Ouais.
vraiment bien. Il faut s'assurer d'avoir sa propre voiture.
Ouais,
Parce
c'est un
que, ouh
souci
là
dans
là.
la Caraïbe, le déplacement
Ah oui,
sans
non,
la
mais
voiture.
là-bas, il vaut mieux avoir sa propre voiture parce que on va éviter de se déplacer en bus. En plus, c'est très étroit. Elles sont très étroites, les routes là-bas. Donc, oui. Sa propre voiture.
L'une des questions aussi que j'ai pour habitude de poser dans le podcast, c'est une question un peu signature. Pour toi, qu'est-ce qui fait la particularité de la Caraïbe? Quelque chose qui n'existe que chez nous. On ne trouve pas ça nulle part ailleurs sur le monde.
Très bonne question. Moi, j'aurais dit, c'est notre multiculturalisme. Par exemple, on est français, on est caribéen, on est antillais, mais on a des origines indiennes, africaines, européennes. Il y en a qui ont des origines chinoises également. Donc moi, je pense que ce qui fait la particularité de la Caraïbe, c'est vraiment son melting pot qui date depuis des siècles et qui a structuré notre histoire, mais également la culture. On a plein d'influences, de melting pot dans nos plats, dans nos chorégraphies, dans la manière dont on parle. Le créole, c'est un mélange de, par exemple, de Yoruba. Il y a plein d'influences qu'il y a eu dessus également. Donc moi, pour moi, ce qu'on ne retrouve pas ailleurs, c'est voilà, ce côté melting pot multiculturaliste très fort qu'on a aux Antilles. On a réussi à dégager également une identité propre à nous-mêmes. Par exemple, le carnaval en Guadeloupe. Le carnaval en Guadeloupe qui est très particulier, met en avant la culture, une culture très forte, met en avant l'histoire également. Par exemple, ça, c'est différent de Saint-Martin-en-Guy. À Saint-Martin-en-Guy, on ne fait pas le carnaval de la même manière. Là, on va mettre en avant plutôt le côté concours, mais également le côté divertissant, etc. Mais avec des plumes ou sinon avec du madras fleuri, parce que c'est ce qu'on fait à Saint-Martin. On a des madras, du tissu madras, mais avec des fleurs dessus. Voilà, on a réussi à dégager une identité très forte, qui est différente en fonction des îles. Et pour moi, tu ne retrouves pas ça ailleurs. On ne retrouve pas ça ailleurs, pas du tout. On a également un confort de vie. Également, on a des problèmes.
Oui,
Mais
faut les évoquer aussi, tu n'es pas beau dans la Caraïbe.
voilà, tout n'est pas beau dans la Caraïbe. Les sargasses, on a pris les prix qui sont exorbitants. On a le
Tout à fait.
transport en commun qui n'est pas du tout adapté ni structuré. On ne peut pas se lever du jour au lendemain et partir sur une autre île parce que ça coûte très cher, le transport intercaraïbe. Ça, c'est une autre histoire. Mais on ne va pas nier le fait qu'on vit dans des paysages qui sont magnifiques. Moi, je trouve que les Antillais sont très accueillants également, qu'on peut discuter avec eux. Ils sont très sympas aussi. Par exemple, moi, j'ai été vivre en Guadeloupe. Je n'ai pas de famille en Guadeloupe. Et j'ai réussi à me faire un réseau, à rencontrer des amis qui, maintenant, aujourd'hui, que je considère comme de la famille, alors que je connaissais que deux, trois personnes là-bas. Donc moi, je trouve qu'il y a cette sympathie qu'on ne trouve vraiment pas ailleurs. Donc voilà, pour moi, la Caraïbe is very, very, very special. Donc voilà, par exemple, dans des grands pays, il n'y a pas, tu vois, ce côté sympathique, ce côté contact, on ne retrouve pas ça partout.
Chaleureux, c'est vrai,
Voilà.
je
Donc
confirme.
moi, je trouve qu'aux Antilles, on retrouve ça partout. En vrai, tu retrouves ça partout.
C'est vrai, tu es toujours bien accueilli, quel que soit l'endroit où tu vas. Si tu as un souci, les gens t'aident. Parfois, c'est... Ça peut être surprenant, mais les gens ne vont pas hésiter à t'aider. Tu as un souci de voiture ou autre, les gens t'aident.
Exactement,
Et
exactement.
sans forcément te demander quelque chose en retour, hein, ils ne te demanderont pas de
Exactement.
l'argent ou, je ne sais pas,
Exactement.
autre chose.
C'est ça.
Et si, limite, quand tu donnes, par exemple, de l'argent, tu te dis, OK, il m'a aidé, je vais le payer quand même. Les gens refusent, en fait.
Voilà, les gens refusent. On prend l'exemple du stop aux Antilles. Je sais, tu fais du stop aux Antilles, tu veux donner 1 euro, 1 dollar, la personne dit non, t'inquiète, c'est juste pour te dépanner, quoi. On trouve pas ce contact humain ailleurs. Par
Partout.
exemple, moi, c'est ça. Moi, je sais que j'habite dans le sud et bon, je ne vais pas cracher sur le tourisme, ni sur les touristes non plus, puisque ça fait partie du développement économique de la Martinique, de la Caraïbe. Mais quand j'attends mon petit bateau pour aller à Fort-de-France, on m'approche et on me dit c'est à quelle heure le prochain? Même pas un bonjour, même pas un s'il vous plaît, tu vois, c'est même pas excusez-moi, bonjour, tu vois. Et je suis obligée de reprendre. Déjà, on dit bonjour, c'est quand, est-ce que vous pouvez m'indiquer quand est-ce que le prochain bateau arrive? Tu vois ce que je veux dire?
Oui.
Donc, c'est bien, comme je dis, le tourisme, on ne va pas cracher dessus parce qu'on en a besoin pour développer nos îles, mais ce serait toujours intéressant pour certaines structures touristiques de mettre en avant le fait que aux Antilles, oui, on est très chaleureux, mais on est très à cheval sur la
La
politesse.
politesse, tout à
Voilà,
fait.
sur la politesse. En Martinique, en Guadeloupe, mais c'est la même chose, par exemple, en Jamaïque et à Saint-Martin. Aux Antilles, on est très à cheval dessus et c'est très, très bien. Donc, voilà, moi, je pense que ça aussi, c'est une spécificité des Antillais. C'est très important de le mettre en avant parce que je sais qu'il y a des gens aux Antilles qui ne vont pas du tout apprécier ça et qui, après, la relation client ou la relation tout simplement va être dégradée juste par rapport à ça, quoi.
Ben, je te remercie pour l'échange très enrichissant, car nous arrivons aussi à la fin de cet épisode. Aurais-tu quelque chose à ajouter par rapport à notre échange, le podcast ou la Caraïbe en général?
Alors, dans la Caraïbe, il ne faut pas avoir peur de dépasser les frontières. C'est tout ce que j'ai à dire. Même si vous êtes dans une île, vous proposez un service ou un produit, n'hésitez pas à tourner vers votre voisin et voir ce qui se fait non seulement ailleurs, mais également de proposer vos services et produits ailleurs. Vous serez très, très, très surpris. Surtout que maintenant, il existe énormément de structures aux Antilles qui accompagnent dans l'espoir, c'est-à-dire Business France, le centre Caro en Guadeloupe. Donc voilà, n'hésitez surtout pas. Je sais qu'il y a la barrière de la langue, mais dans la plupart des îles, ils parlent créole également. Donc je sais que l'anglais, des fois, ça fait peur. Mais voilà, n'hésitez surtout pas à vous tourner vers votre voisin ou sinon de regarder dans votre réseau professionnel qui peut vous aider dans ce sens-là. Donc voilà. Et Caribbean Hustler cette année va également faire non seulement des after-work, mais plein d'autres événements qui va se diriger dans ce sens également. Donc voilà. Merci beaucoup Anaïs.
Je t'en prie. Ben justement, si les auditeurs veulent suivre l'actualité de Caribbean Hustles ou encore participer aux prochains événements, comment ils peuvent entrer en contact avec toi?
Alors, vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux. On a Instagram, Facebook et Twitter et LinkedIn également, surtout sur LinkedIn. Caribbean.hustlers. Hustlers, c'est Hustlers. C'est Hustlers, tout simplement. En train de structurer également le site internet parce qu'on veut donner un peu plus de peps à Caribbean Hustlers cette année et proposer d'autres services, donc, qui seraient intéressants pour les entrepreneurs. Donc, voilà, restez connectés.
Super.
Et 2023, je pense que 2023, ça va être the année pour Caribbean Hustlers. Et,
Super. Merci encore pour cet échange.
Merci à toi pour l'invitation, surtout.
Et pour les auditeurs, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode dans Caribbean Lifestyle.
Si cet épisode vous a plu ou a attisé votre curiosité, vous pouvez le partager avec vos proches. Je vous invite aussi à le noter et à laisser un commentaire sur la plateforme où vous écoutez vos podcasts, ou encore à donner votre avis sur le compte Instagram @caribbean.lifestyle.podcast. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à bientôt.